Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, reconnaîtrez-vous ce message, cette main tendue qui a été lancée au 1er février 1954. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Bien sûr, ce message, c'est celui qu'a lancé l'abbé Pierre et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Cédric Thomas, qui dirige la communauté Emmaüs 24 et qui va nous parler, qui va tout nous dire sur Emmaüs 24 en particulier et sur Emmaüs en général. Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Libre en Périgord. Depuis quand travaillez-vous pour Emmaüs ?
J'ai commencé à travailler pour Emmaüs en mars 2008 et je suis arrivé à la communauté Emmaüs en Dordogne 16 juillet 2008. Après, si vous voulez, un parcours, parce que quand on devient responsable au niveau national, on fait un parcours dans différentes communautés pendant plusieurs mois. Et puis, dans ce parcours, eh bien, il y avait la communauté d'Emmaüs en Dordogne. Et après ça, je ne suis plus reparti. En fait, en réalité, je suis resté là jusqu'à mon affectation définitive au mois de décembre 2008.
Quand vous entrez Emmaüs, vous faites un peu ce que les compagnons appellent un tour de France, c'est-à-dire que vous frottez à différentes communautés pour...
C'est ça, c'est important parce que toutes les communautés aujourd'hui, il y en avait 117 à l'époque, il y en a 122 aujourd'hui, des communautés en... Alors on parle bien des communautés, parce que des groupes Emmaüs, il y en a aussi d'autres, le Relais, etc.
Toutes les 117, c'est en France.
C'est en France, oui. Oui. En France, donc 117 communautés en 2008. Alors évidemment, il ne s'agissait pas de faire les 117, mais d'avoir pendant plusieurs mois une sorte d'échantillon un petit peu de ce que ça pouvait être que la vie en communauté. Mais avant tout, une communauté, c'est un lieu de vie. S'y passe des choses et un lieu de vie qui fonctionne 365 jours dans l'année, la nuit, le jour. Et selon l'endroit où vous vous trouvez, vous avez des communautés comme ici où on est autour de 20 personnes, mais vous avez des communautés où ils sont 70, vous avez des communautés qui depuis très longtemps accueillent également des femmes. En Dordogne, c'est très récent, mais vous prenez Saint-Étienne, par exemple, depuis 15 ans maintenant, ils accueillent même des familles, c'est-à-dire que selon les endroits, vous avez des expériences et des choses qui se font et qui se vivent, qui sont très différentes.
Alors, dans tout ce que vous venez de nous dire, il y a des choses évidemment qui interpellent, à savoir, quand on parle de communauté, ça veut dire que les gens qui travaillent pour une communauté Emmaüs vivent ensemble.
C'est ça. Ils vivent dans un collectif, c'est-à-dire que... Alors, prenons l'exemple de Périgueux. Aujourd'hui, vous avez, à l'heure où on se parle, vous avez 20 compagnes et compagnons. Alors, en réalité, 18 hommes, 2 femmes... dont une femme qui est en couple et qui est accompagnée de sa fille qui a 8 ans. Alors elle ne participe pas évidemment à rien du tout dans la communauté, en dehors des repas et des choses comme ça, mais par contre elle est scolarisée, elle a une vie normale, sauf que sa maison c'est la communauté.
Cette entrée tardive des femmes dans la communauté Emmaüs 24, elle est due à quoi ? Est-ce que c'est le reflet d'une situation générale ou bien...
Alors, c'est le reflet d'une évolution, effectivement, générale de l'accueil des compagnes et des compagnons en France. Il y a des gens qui s'y sont mis très tôt. Ici, le frein, c'était toujours l'idée que les locaux tels qu'ils étaient organisés ne permettaient pas d'accueillir des femmes parce que dans une partie des locaux, par exemple, vous avez une salle de bain pour 4 chambres. Il y a un an et demi... Oui, un an. Ouais, ça fait un an et demi en réalité. On a une famille qui se présente à la porte. En réalité, ils vivent depuis plusieurs semaines au bord de la rivière, sous une toile de tente. Et ils ont une enfant qui a 7 ans, dont les parents semblent prendre grand soin. Il n'y a pas de souci particulier, sauf qu'évidemment, ils habitent dehors. Et à ce moment-là, on venait juste de refaire un espace chambre, salle de bain, dans un petit endroit de la communauté. Et je dis banco, on les met à l'abri, on verra bien comment ça se passe. Et effectivement, les accueillis, ils sont toujours là. Vous voyez? Et il n'y a pas eu de problème.
Sont devenus des compagnons.
Pardon?
Ce sont devenus des
Oui,
compagnons.
c'est ça.
Mais à côté de ces permanents, permanents qui restent quelquefois pas très longtemps, ou quelquefois très longtemps, je suppose, vous avez des bénévoles qui travaillent dans la communauté?
Alors oui, nous avons bien sûr des bénévoles, les bénévoles avec une fonction très précise, qui est effectivement d'accompagner l'équipe responsable et l'équipe des salariés pour permettre effectivement un encadrement qui soit bienveillant, qui soit un soutien au niveau du travail, qui soit. Puis il y a une association. Une association, elle a besoin d'administrateurs qui portent la responsabilité juridique de la communauté. Donc ça, et puis on est adhérent Emmaüs France et Emmaüs International, Emmaüs Europe aussi, mais on est avant tout une unité indépendante. S'il se passe quelque chose ici, vous avez des responsabilités à tous les niveaux, que ce soit sur le plan pour les véhicules, pour l'accueil du public. Vous voyez, on est classé ERP pour accueillir le public dans la salle de vente. On a des centaines de personnes qui défilent dans la communauté. Cette responsabilité, elle est portée évidemment par l'équipe de directeurs, qu'on appelle chez nous des responsables, mais elle est aussi et surtout portée par l'association locale et par les membres du bureau, dont le président, la secrétaire, la
Donc,
trésorière, comme dans toutes les
c'est à la
associations.
fois une entreprise, mais qui fonctionne sur un mode associatif. Est-ce que je me trompe?
Oui, enfin c'est plus le mot entreprise qui est quelque part est choquant, sauf si on dit qu'elle est à vocation humanitaire.
Faut la gérer quand même
Ah,
comme une
mais
entreprise.
oui, il y a une certaine gestion,
Bien
c'est
sûr.
sûr, c'est ça. Ça se gère pas. Bon, il y a 4 salariés dans la communauté, mais effectivement, ça se gère pas comme, je dirais, alors sans vouloir dire de grosses bêtises, mais comme le club de ping-pong de Coulounet-Chamiers, quoi. Voilà. Évidemment, il y a des gros. À certains moments, il y a des gros enjeux. Il faut prendre des décisions. Là, par exemple, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se dit que notre espace restauration, qui est un espace privé, c'est pas un espace public, c'est un espace privé pour la communauté, a besoin d'être réhabilité ou transformé, etc., pour être au goût du jour et aux normes qui doivent être les siennes. Du coup, là, on est sur un gros projet. On en est aux plans finaux avec les architectes. On va construire sur la communauté un espace où on va pouvoir accueillir au moment du repas une quarantaine de personnes. Et
Vous allez
ce bâtiment.
autofinancer.
Ah oui, en grande partie. En grande partie, pour ce genre de choses, ce serait pour des chambres, il y aurait éventuellement la possibilité d'aller rechercher des aides et des subventions. Mais là, pour la partie restauration, on est complètement dans l'autofinancement. Alors l'autofinancement, c'est pas seulement les ressources de la communauté, c'est aussi les ressources d'Emmaüs, puisque entre les groupes, il y a une solidarité qui existe et qui fait que il y a des fois des fonds qui sont mis à disposition des uns ou des autres en fonction des projets locaux, quoi.
La communauté 24, elle est bien connue. Quand on y arrive, en particulier le mercredi, qui est un jour de vente, comme je l'ai vu la dernière fois en venant prendre rendez-vous avec vous, on est impressionné par la fréquentation et par le monde qui se presse ici. Ça veut dire que vous avez une activité quasi commerciale. Qui fait pendant à votre activité de collecte. Comment ça fonctionne, ça?
Bien, si vous voulez, la base, ce qu'on appelle un peu le modèle économique d'une communauté, c'est le fait que l'abbé Pierre, quand il a inventé sa première communauté et les suivantes, après ce que vous avez cité tout à l'heure, hein, à partir du 1er février 54, il y a ce qu'on appelle l'insurrection de la bonté, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Français qui... on est encore dans l'après-guerre. Hein, il y a énormément de Français qui sont touchés par son message et qui lui envoient des sommes qui, si on les traduisait aujourd'hui en euros, sont des sommes considérables. Avec ces sommes, il va les distribuer pas n'importe comment. Il va mettre à disposition un certain nombre de moyens financiers avec des gens de confiance qui vont aller un petit peu créer des communautés un petit peu partout. Après, le modèle, c'est ce qu'il nous a demandé, c'est de ne pas solliciter auprès des mairies, des régions, etc., de ne pas solliciter de subventions. Sa phrase, c'était 0% de subvention, 100% de subversion. Vous savez que c'était l'époque, dans l'après-guerre, où les grosses problématiques étaient autour du logement, du mal-logement. Hein, il y avait tellement de logements détruits que on n'avait pas, tous les Français n'avaient pas la possibilité de se loger. Et l'abbé Pierre, qui était député à l'époque, avait l'habitude de monter au créneau, en particulier à l'Assemblée, mais aussi dans la rue quand il manifestait, en disant si la loi ne permet pas de... à la France de loger tout le monde, c'est que c'est la loi qui est illégale.
Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il a commencé, débuté à partir de 49 en étant député et aidé par son attaché parlementaire. Est-ce que en quelques chiffres, vous pouvez donner une idée de l'importance relative de la communauté E24, puis après on va s'échapper vers l'extérieur en parlant de l'international, mais ici, concrètement, qu'est-ce qui fait l'importance de la communauté 24 ?
Alors, je veux bien qu'on parle de chiffres. Ceci dit, ce n'est pas les chiffres qui disent l'importance de la communauté.
Est-ce que vous avez un chiffre d'affaires ou est-ce que vous avez des choses comme ça qui peuvent être... divulguer.
C'est pas secret. Hein. Le chiffre d'affaires de la communauté, c'est 550 000 euros. Avec des comptes, un résultat d'exercice annuel qui permet de dégager pour mettre. En gros, un résultat positif de 50 000 euros qui permet d'envisager ce que vous avez peut-être vu si vous fréquentez régulièrement la communauté, c'est-à-dire qu'on a fait de gros travaux, que ce soit des travaux extérieurs. Alors, ce n'est pas seulement de l'embellissement, de la peinture, c'est les toitures, c'est un certain nombre de choses. Parce que, bon, avoir un toit sur la tête, c'est bien, mais quand il prend l'eau, c'est moins bien. Comme on est dans un bâtiment qui est une ancienne usine, y a sans arrêt des choses à faire, des réparations. Et puis, ces dernières années, on a beaucoup investi, en tout cas, on a investi tout le surplus dans la mise aux normes, la mise en sécurité, de façon à pouvoir avoir le droit de continuer d'accueillir le public. Et puis, il y a eu tous les problèmes aussi qui sont devenus aujourd'hui obligatoires, qui concernent l'accessibilité. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un, une personne handicapée qui vient à la communauté en fauteuil puisse non seulement se garer, mais accéder à l'ensemble des magasins. Alors, il n'y a qu'une exception, c'est qu'on a un étage au niveau de la salle de vente. Là, il y avait... Bon. Mais si vous voulez, avec le chiffre d'affaires dont on a parlé, de l'ordre de 550 000 euros annuels, eh bien, ça nous donne la possibilité d'accueillir toute l'année les 21 personnes qui s'y trouvent aujourd'hui. En tout cas, dès qu'il y en a une qui part, il y a quelqu'un d'autre qui vient la remplacer. Donc on accueille en réalité plus de 21 personnes à l'année. C'est plutôt, le chiffre est plutôt, si on compte les gens qui restent un petit peu quelques jours ou quelques semaines, c'est plutôt autour de 55 personnes qui sont accueillies chaque année, 55-60 personnes. Et je ne vous parle même pas des gens qu'on met à l'abri pour une nuit parce qu'il fait trop froid dehors, que quelqu'un arrive en disant « j'ai pas trouvé de place au 115, est-ce que je peux dormir là ?» Et il va peut-être finir par dormir sur un canapé, mais en réalité, voilà, on accueille beaucoup plus de monde que le nombre réel de chambres que l'on a. Mais Les 50 personnes en question, quand elles sont à la communauté, elles sont nourries, elles sont bien sûr chauffées, on fait du suivi social, mais aussi du suivi médical. Qui dit suivi médical dit financement de paires de lunettes, de prothèses, de tout ce que vous voulez. Donc, et en réalité, toutes ces choses-là coûtent extrêmement cher. Et là, notre indépendance nous coûte cher, en réalité.
Alors, bien sûr, ça, je n'en doute pas. Mais alors, deux choses. Les gens qui passent ici, vous avez cité les personnes qui viennent chez vous en dernier recours parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, mais des gens qui font leur parcours initiatique comme vous l'avez fait, il y en a une partie importante sur les personnes qui viennent ici à la communauté 24. Et la deuxième question, est-ce que vous êtes bombardé de demandes de gens qui voudraient travailler et devenir salariés de la communauté?
Alors, sur la première question, moi je suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un salarié national et je suis également tuteur de responsable. Ça veut dire que dans les personnes qui chaque année, puisqu'il y a deux recrutements au niveau national chaque année, dans ces recrutements, donc il y a à peu près 25 candidats qui sont accueillis. Et le préalable aux entretiens, c'est d'avoir fait une période d'immersion en communauté. Donc effectivement, dans les futurs responsables, les futurs cadres nationaux du mouvement Emmaüs, ils vont en communauté pour des périodes d'immersion, de quelques jours d'abord. Et puis dans le démarrage, comme je l'ai fait moi, sur des parcours qui sont aujourd'hui un petit peu plus courts que par le passé, mais en réalité, effectivement, j'accueille chaque année plusieurs stagiaires. Alors ça dépend, des fois c'est 3 dans l'année, des fois c'est 4, des fois c'est 2, ça dépend un petit peu des années. Mais ça fait partie de ma fonction que d'accueillir les gens, de leur montrer ce que c'est qu'une communauté, comment ça fonctionne, et de les initier à ce qui va être leur futur travail dans l'avenir. De la même façon, vous savez que l'abbé Pierre est mort maintenant depuis 12 ans, je ne dirais pas que son image disparaît, mais il y a quand même, à part la génération, j'allais dire, de mes parents et la mienne, qui connaissent bien l'histoire de l'abbé Pierre, qui savent en dire plein de choses, aujourd'hui, cette image elle a tendance quand même à s'estomper chez les plus jeunes. Alors, on pourrait se dire, mais si on oublie l'abbé Pierre, il n'y aura plus de dons, il n'y aura plus de gens à acheter. Enfin, en réalité, pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est ça le miracle des choses, c'est-à-dire que l'abbé Pierre et les premiers compagnons, quand ils ont inventé le système des communautés, de la récupération, de la prévention finalement des déchets, etc., ils avaient 70 ans d'avance sur tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait aller jusqu'à dire, c'est hyper à la mode, tout ce qu'on trouve dans les communautés.
On voit fleurir les recycleries.
Oui, oui, il y a plein de gens qui s'en saisissent sur des modèles qui sont un peu différents, parce qu'une recyclerie, on ne va pas dire du mal des recycleries, hein, mais une recyclerie, c'est quand même un lieu qui, effectivement, fait de la récupération de déchets, principalement déchetterie. En réalité, je ne m'y attendais pas vraiment, mais ce que j'ai découvert à Emmaüs est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc on est bien d'accord, on n'est pas financé, donc on n'a pas de public cible. On n'accueille pas que les gens qui ont une patte plus courte que l'autre. On accueille une diversité de personnes qui viennent de France, de partout dans le monde, qui ont un accident de parcours professionnel, qui ont un accident de parcours familial, qui ont un accident de parcours tout court, qui se retrouvent un peu perdus à un moment donné. Et la puissance de notre modèle, c'est que vous mettez un toit sur la tête de quelqu'un. Vous lui donnez une fonction à l'intérieur, ce qui va être une fonction qui se voit à la vente, une fonction qui ne se voit pas à la cuisine, une fonction qui ne se voit pas non plus au standard, ou quelquefois à l'arrière, simplement à ranger les bennes. Et vous le retapez, en 3 semaines, vous ne reconnaissez pas la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun modèle, j'allais dire étatique, européen, tout ce que vous voulez, qui va être ultra-financé, qui va coûter, comme dirait Macron, un pognon de dingue, n'arrivera jamais à obtenir ce type de résultat. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur dans les deux modèles. Il y a véritablement dans le fait d'accueillir dans cet esprit d'humanité et de solidarité toute personne sans condition, ni condition de ressources, ni condition, j'allais dire, de quoi que ce soit, eh bien, ça, c'est d'une puissance formidable.
Le temps va très vite, malheureusement. Il faudrait qu'on fasse, on prévoit plusieurs émissions. Est-ce qu'on peut faire une petite incursion, vous pouvez rappeler rapidement comment le modèle Emmaüs a essaimé depuis la France, en Europe et dans différents pays, au point d'arriver, si j'en crois les chiffres que j'ai regardés, avoir maintenant plus de 350 communautés dans près de 40 pays.
C'est ça. C'est même 480 groupes au total.
Comment ça a pu se faire aussi rapidement ?
Ah ben ça, c'est complètement l'œuvre de l'abbé Pierre. Parce qu'en réalité, lui, en 49, il ouvre la première communauté, c'était sa maison à lui. Elle est rue Paul Doumer à Neuilly-Plaisance. En 54, entre 49 et 54, il construit des maisons avec des personnes. Ça vivote un petit peu, mais en réalité, c'est un peu le démarrage. En 54, après l'insurrection de la Bonté, il a des moyens qui sont radicalement différents de ce qu'il avait précédemment, puisqu'avant il avait que sa solde de député. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a même fait un jour, alors je me rappelle plus la date, mais il avait même dit à l'Assemblée, c'est un scandale qu'on ne puisse pas loger tous les Français et puis qu'on nous réponde toujours la même chose. L'État n'a pas d'argent. Vous voyez, les choses n'ont pas vraiment changé aujourd'hui. Et l'abbé Pierre avait répondu, eh ben si vous en avait pas d'argent, c'est Emmaüs qui va vous en prêter. Voilà. Donc il était dans cet état d'esprit-là. Il a effectivement mis les ressources à disposition d'un certain nombre de gens qui avaient envie de le suivre. Il y a des groupes qui se sont créés un peu partout en France. Alors c'est allé un petit peu lentement, hein, mais bon. Et à partir de là, lui, il ne s'est plus occupé de rien quasiment sur le territoire national. À la fin de sa vie, on l'a vu devant les églises qui accueillaient des gens à la rue. On l'a vu intervenir dans les médias, etc. Parce qu'il avait bien compris que c'était une des manières de faire essaimer un petit peu les idées de la solidarité et d'Emmaüs. Donc ça, c'était bien compris. Et puis il était devenu un peu âgé pour voyager. Mais dans la période entre les deux, il a passé sa vie dans les autres pays du monde, a essayé de venir en aide à des populations qui étaient, de son point de vue, encore plus en difficulté que les pauvres en France.
Le voyage en Uruguay.
Et il y a notamment le fameux voyage en Uruguay où on a cru qu'on l'avait perdu.
Alors, est-ce qu'il y a des relations de choses ? La première, est-ce que les communautés sont liés par une sorte de sympathie confessionnelle.
Le mot confessionnel n'irait pas. Par contre, justement, quand l'abbé Pierre a failli mourir dans ce fameux naufrage, il a pris conscience qu'il fallait qu'il mette quelques garanties, en fait, à la pérennité de son mouvement. Et du coup, il a invité à l'Assemblée mondiale suivante. Alors, je ne sais plus laquelle c'était, parce que la liste est longue. Mais je sais qu'à l'Assemblée mondiale suivante, il a demandé à l'ensemble, puisque l'Assemblée mondiale, c'est là où, effectivement, tous les groupes du monde se retrouvent. La dernière fois, on était en Italie, on était presque 4000 personnes quand même. Il a demandé à tous ces groupes...
Pour les auditeurs, on va dire que la prochaine a lieu l'année prochaine.
Oui, c'est ça, en octobre l'année prochaine, et ce sera en Uruguay. Et il a demandé donc à tous les membres de travailler sur une charte. Et cette charte, donc, elle rappelle un peu le but d'Emmaüs, ses valeurs. Ses orientations pour l'avenir, etc. Et aujourd'hui, en devenant adhérent d'Emmaüs en France, mais aussi bien, puisque ça ne va pas sans l'autre, d'Emmaüs en Europe et dans le monde, finalement, on est lié par cette charte et par cette volonté commune, au fond, de lutter contre toutes les formes de misère, puisque enfin, l'idée de l'abbé Pierre, c'était qu'il ne faut pas simplement s'attaquer à la misère, il ne faut pas la faire ou faire la guerre aux pauvres, et il faut s'attaquer aux raisons profondes de la misère, et là, il y a encore du boulot. Hein.
Et donc, il y a des communautés qui peuvent être fonctionnées, dont le fonctionnement est assuré par des bouddhistes. Ou par des gens d'autres religions ou par des gens qui n'ont pas de religion.
Ah oui, complètement, complètement. D'ailleurs, c'était ça aussi, c'est d'une grande force et aujourd'hui, on peut en tirer des leçons quand on voit l'actualité. Enfin, toutes ces minorités qui terrorisent la majorité un peu partout dans notre pays, mais aussi dans les autres pays. C'est intéressant cette volonté que l'abbé Pierre a eue de rester non confessionnel. Parce que c'était quand même un abbé. Son modèle, il avait quelque chose à voir avec...
C'est même paradoxal, parce qu'il a porté la soutane jusqu'à la fin.
Mais bien sûr. Mais il avait... le modèle des communautés, ça ressemble... À certains moments, ça peut ressembler à un petit séminaire aussi. Hein, mais en prenant ses distances par rapport à Rome, notamment, ça a été de dire, mais si on est une structure laïque, et il fallait quand même avoir une sacrée dose de finesse et dans l'analyse pour dire ça. Si on est une structure laïque, on va pouvoir accueillir tout le monde. On va pouvoir accueillir des bouddhistes, on va pouvoir accueillir des musulmans, des juifs, des catholiques. Voilà. Déjà ça.
La charte qui vous lie est une charte laïque, en fait.
Une charte complètement laïque. C'est d'ailleurs, on parle de solidarité, on parle d'égalité tous les jours. C'est presque la devise dans la charte des communautés. Vous avez presque la devise française: liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire, on se soucie sans arrêt toute la journée de créer des conditions égalitaires entre les personnes qui sont accueillies. On se soucie toute la journée de ce qu'on appelle la solidarité, mais qu'on peut tout à fait appeler, si on veut, la fraternité. C'est exactement de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de grosse différence. Quelqu'un peut avoir, du point de vue intime, les croyances qu'il veut, ça l'empêche pas de vivre à côté des autres. C'est pas... Bon, après, on veille au quotidien à certains équilibres, pour qu'on ne se retrouve pas dans un groupe, par exemple, de 20 personnes, avec 10 personnes qui viennent du même pays, parce que là, je ne parle même pas de confession, encore là, c'est encore autre chose, mais voilà, on essaie de créer une micro-société. Une micro-société dont l'objet n'est pas d'être des champions du commerce et de la mondialisation, mais d'être des champions du « je vis avec les autres » et ma mission principale, c'est ce qu'a fait l'abbé Pierre avec le premier compagnon. Je suis accueilli et je viens aider d'autres personnes. C'est-à-dire que la personne qui est accueillie en communauté, elle n'est pas une victime de la vie, de son sort. Hein. Elle est quelqu'un qui devient un acteur de la solidarité et de la fraternité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas, à l'instant T, les mêmes chances que lui.
Et on va malheureusement se séparer sur ces paroles pleines de sagesse et d'enthousiasme et d'optimisme. Est-ce que vous irez en Uruguay l'année prochaine ?
Ah, je ne raterai ça pour rien. C'est un moment où on est confronté véritablement aussi à d'autres cultures, d'autres façons de faire. Et moi, j'ai vraiment hâte d'aller rencontrer les trois groupes qui sont en Uruguay et de voir comment, dans le contexte qui est le leur, comment ils arrivent à faire vivre le modèle communautaire, ça m'intéresse vraiment.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà prendre rendez-vous, prendre date avec vous pour que vous nous parliez de cette grande réunion et des enseignements que vous en avez retirés? En attendant, je vous remercie infiniment pour Radio Libre en Périgord d'avoir parlé avec autant de fougue, autant d'enthousiasme et autant d'optimisme.
Et merci d'avoir ouvert votre antenne.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.